Bonjour et bienvenue. Comme tous les vendredis, des chercheurs et acteurs de la culture scientifique d'horizons divers se retrouvent dans le club des Têtes au Carré. Avec autour de la table aujourd'hui Vincent Merlin, chercheur au CNRS, qui nous parlera d'une étude sur les modes de scrutin alternatifs menés à l'occasion des élections présidentielles. Le biologiste Fabrice Genevoix, qui nous emmènera, lui, à la découverte des oiseaux marins. Et Maya Grattier, professeure en psychologie, avec qui nous discuterons du caractère universel ou non de la musique. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue, les auditeurs peuvent participer à nos discussions via la page de l'émission sur franceinter.fr. C'est parti pour ce Club des Têtes au Carré, réalisé par Lola Costantini et préparé par Dylan Beiner-Molière et Pierre Gaufre.
Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise.
10 secondes.
5, 4, 3, 2, 1.
La tête au carré, le club, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Et nous voilà donc dans l'ambiance. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dans 10 jours. Le mode de scrutin, on le connaît, il nous est familier. Scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Mais peut-être qu'un jour, nous choisirons un autre mode de scrutin. Et qu'est-ce que cela changerait? C'est un peu l'objet de l'étude à laquelle vous participez, Vincent Merlin. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'université Caen Normandie. Vos travaux portent notamment sur l'analyse des règles de vote. Et donc dimanche, 23 avril, prochain, avec d'autres chercheurs, vous allez mener une grande expérience qui se déroulera dans les bureaux de vote de 5 communes françaises. En quoi va consister cette expérience?
Bonjour. Eh bien, le jour du vote, nous allons inviter les électeurs, après avoir voté, à venir participer à un autre vote dans un bureau de vote fictif qui sera installé donc juste à côté du bureau officiel. Et nous leur demanderons de reproduire la geste électorale pour tester des modes de scrutin plus originaux qui permettent, on le pense, de mieux exprimer les préférences des votants.
Oui, alors c'est ça. L'idée, c'est d'imaginer un mode de scrutin qui permette de faire passer un peu plus d'informations. Finalement, le mode de scrutin actuel, on perd beaucoup d'informations avec ce système.
Oui, tout mode de scrutin est un filtre entre votre préférence, vos choix, et finalement tout cela se réduit à un seul nom actuellement. Ce qu'on va tester, c'est effectivement des modes de scrutin où on va demander plus d'informations pour prendre des décisions.
Alors, il y a comprendre les effets des différents modes de scrutin sur la politique aussi, hein, parce qu'on se rend compte que selon le mode de scrutin que l'on choisit, déjà on n'obtient pas forcément les mêmes résultats, et puis même la vie politique s'organise un peu différemment.
Tout à fait. Alors peut-être que je vais revenir sur les modes de scrutin qu'on va tester brièvement. Alors on va tester un mode de scrutin très simple qui s'appelle le vote par approbation, qui dit qu'au lieu de donner un seul nom, eh bien on approuve ou on n'approuve pas les candidats. C'est-à-dire qu'on s'exprime sur tous les candidats et on dit si oui on veut qu'ils soient élus ou non.
Donc ça permet de mettre
On
met plusieurs noms dans l'urne.
Et puis en fait, finalement, c'est comme si on mettait un score de note de 0 ou 1. Et puis on peut prolonger un petit peu l'étude, et c'est ce qui va nous intéresser aussi scientifiquement. Et si on rangeait sur une échelle de 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc on va tester ces différentes échelles avec différents protocoles selon les lieux pour voir s'il y a des différences quand les gens sont confrontés finalement à des échelles différentes de notation.
Donc pour être très clair, on peut imaginer un bulletin de vote qui devient un bulletin de notes justement avec le nom des candidats et à côté j'attribue une note à chacun des candidats.
Tout à fait.
Et après, au moment du dépouillement, eh bien, on additionne les points.
On fait la moyenne.
Il existe aussi le vote par classement. Donc là, on va classer les candidats par ordre de préférence.
Alors, oui, ça peut vous paraître étrange, puisqu'en France, on est habitué au vote majoritaire à 2 tours. Mais par exemple, en Australie, en Irlande, où là, récemment, cet automne, l'État du Maine a décidé d'adopter un mode de scrutin où il faut classer les candidats. Mmh. Et on va faire tous les tours avec un seul bulletin, où on va éliminer à chaque fois celui qui a le moins de voix, et puis on va prendre le suivant, si vous êtes candidat, etc. Ce qu'on appelle le vote transférable unique, et ça existe dans la réalité dans d'autres pays. Ouais. Ce qui nous paraît une tradition en France n'est pas forcément naturel dans d'autres pays.
Oui, c'est intéressant parce que tout d'un coup, on se dit, et si on faisait autrement? On se rend compte qu'il n'y a pas une seule façon de procéder, il y en a d'autres, et ailleurs, on a choisi d'autres façons de faire, avec des résultats évidemment différents du coup à l'arrivée. Hein. Parce que vous avez déjà mené, les chercheurs ont mené des expériences similaires lors des élections présidentielles précédentes, donc en 2002, en 2007, en 2012. Mmh. Qu'est-ce qui était ressorti de ces précédentes expérimentations?
Alors à chaque fois, on change un peu les protocoles, on change un petit peu ce qu'on veut tester, mais globalement, les électeurs sont assez satisfaits. On voit bien aussi qu'il y a des débats sur le vote utile aujourd'hui. Tout le monde se pose des questions métaphysiques. Mmh. Qu'est-ce que je vais voter? Mais c'est vrai que déjà, la première chose qu'on constate, c'est qu'à peu près 80-90% des gens qui participent à ces expériences sont plutôt contents de donner plus d'informations.
Et oui, parce que si on a le droit de voter pour plusieurs candidats, la question du vote utile ne se pose plus.
Pas tout à fait, parce que tous les modes de scrutin, ça a été prouvé dans les 70, sont manipulables. Ouais. Il y a un économiste, Mark Satterthwaite, un philosophe, Alan Gibbard, qui montrait que tous les modes de scrutin démocratique étaient manipulables, donc sont sujets au vote utile. Mmh. Mais déjà, en mettant plus d'informations, on limite ce problème.
Alors, je vous demandais des exemples de résultats lors des précédentes élections, quand même. En 2002, par exemple, si on avait voté par approbation, ou en tout cas dans les isoloirs où vous avez testé ça sur les bureaux de vote, en 2002, le vainqueur aurait été le même, c'est-à-dire Jacques Chirac, mais Jean-Marie Le Pen serait arrivé quatrième de l'élection, si on avait eu le droit de voter pour plusieurs candidats à la fois. Et ça change complètement le résultat d'une élection.
Alors, ça peut changer ou pas. En 2007, c'était plutôt François Bayrou qui serait sorti, mais en 2012, François Hollande serait toujours sorti. Mmh. Donc ça dépend aussi de l'offre électorale. Chaque situation est différente d'une autre. Il faut aussi savoir que, c'est quand même un bémol sur nos analyses, si on changeait le mode de scrutin, les hommes politiques feraient une campagne électorale différente.
Oui.
Puisqu'effectivement, ces modes de scrutin, finalement, sont quand même des modes de scrutin qui cherchent moins à cliver que à rassembler, les plus grandes... Oui. On cherche plutôt ici, avec ces modes de scrutin, il faut le rassembler le plus possible, et les hommes politiques s'adapteraient, bien évidemment.
Donc vous êtes en train de nous dire que le mode de scrutin façonne totalement la démocratie d'une population.
Complètement.
Alors, comment ça va se dérouler le test que vous allez mener? Déjà, dans quelles communes les tests vont avoir lieu?
Alors, nous faisons un test dans 5 communes. Nous faisons ça à Hérouville-Saint-Clair, dans la banlieue de Caen. Nous faisons ça dans le centre-ville de Strasbourg. Nous faisons ça à Grenoble. Et puis, grâce à des initiatives citoyennes, des citoyens qui sont venus nous voir, on fait ça aussi dans 2 villes de la banlieue de Grenoble, qui sont Crolles et Allévar-les-Bains.
Très bien, tout ça de tête, hein, sans papier sous les yeux. C'est-à-dire que, évidemment, les gens ne sont pas obligés de participer. Alors, vous avez toutes les autorisations nécessaires des autorités locales, mais on n'est pas obligé de venir voter.
Non, on a des étudiants qu'on a en universitaire, donc on a aussi mobilisé nos étudiants qui viendront, qui auront des t-shirts, qui auront des badges, il y aura des panneaux après. Ouais. À la sortie, c'est après, évidemment, le vote officiel. Et dans une salle en général qui est juste à côté de la salle de l'école où vous votez, eh bien, on vous invite à venir participer. Mmh. Et en général, ça dépend des cas, mais de 50 à 70% des gens sont volontaires pour venir revoter après, tester un nouveau mode de scrutin.
Alors, si on n'habite pas dans ces communes, mais qu'on est intéressé par cette initiative et qu'on voudrait tester ces modes de scrutin, on peut aussi passer par Internet. Et là, j'ai vu que ça marchait. Il y a déjà des gens qui ont commencé à participer à l'étude. Hein.
On a aussi prévu en fait un module pour tout le monde, pour les gens qui n'habitent pas dans ces 5 communes. Donc, on a créé un site qui s'appelle Voter Autrement 2017, où les gens peuvent bien s'inscrire et ils vont tester quelques-uns des modes de scrutin. Il y a des petits questionnaires. Ça prend 5-10 minutes à remplir. Et on va avoir des informations aussi bien... Alors, aléatoirement, en fait, le système, pour des raisons scientifiques, on va tester aléatoirement quelques-uns des sites. Puis on a quelques questions sur leurs préférences réelles pour voir justement comment se passe ce passage de la préférence à l'expression du vote.
Ça permet donc de tester d'autres formes de démocratie, ou en tout cas d'élection, de scrutin, et en même temps, ça aide la recherche. On va mettre évidemment sur le site de l'émission le lien qui permet d'accéder à cette page pour faire le test. On le rappelle, cette étude n'a pas valeur de sondage, hein, il s'agit juste de tester les avantages et les inconvénients des différents modes de scrutin.
Les avantages et les inconvénients, et aussi comment les préférences se transforment en vote.
Les résultats ne seront pas publiés avant le 18 juin pour ne pas interférer avec les élections législatives et présidentielles.
C'est tout important à fait. Notre but, c'est pas de dire qu'un tel aurait été élu avec un autre mode de scrutin. En plus, comme je l'ai déjà dit, si on change le mode de scrutin,
on change
la campagne. C'est plus pour voir comment les gens vont s'exprimer, vont prendre en main de nouveaux modes de scrutin.
Merci, Vincent Merlin. Dans un instant, on s'envole à la découverte des oiseaux marins dans le club des Têtes Carrées sur France Inter.
We'll be right back. touch me again, feel me again. Somebody other.
C'était Someone Better, Juvenils, sur France Inter, dans la tête au carré.
Il y a pourtant sûrement mieux à faire dans la vie que de se battre pour attraper une misérable tête de poisson. Si j'étais fait pour en savoir si long sur les mille et une façons de voler, j'aurais des cartes marines en guise de cervelle. Si j'étais bâti pour la grande vitesse, mes ailes seraient courtes comme celles du faucon et je me nourrirais de souris et non de poissons. Je dois me contenter de vivre tel que je suis avec ce dont la nature m'a gratifié. Je fais aujourd'hui la promesse d'être un goéland comme tous les autres goélands.
La crise existentielle de Jonathan le Goéland, extrait du film adapté du roman de Richard Bach. Alors on va prendre nous aussi notre envol avec vous, Fabrice Genevoix, biologiste. Vous encadrez des voyages naturalistes aux quatre coins du monde depuis près de 20 ans. Et vous venez de publier Oiseaux de mer aux éditions Glénat. Les oiseaux marins vous fascinent et vous passionnent depuis que vous les avez découverts. Vous étiez tout jeune, vous aviez à peine 20 ans. Un voyage vous emmène jusque sur les îles Kerguelen, et vous vous êtes pris de passion pour ces oiseaux marins.
Oui, tout à fait, c'était le déclic, parce que pendant un an et demi, je suis resté dans cet archipel, dans l'océan Indien, donc sans possibilité de retour. Et donc on est immergé, il n'y a que des oiseaux et des phoques, et moi j'ai plutôt choisi les oiseaux. Et ça a été un épisode de ma vie assez extraordinaire, oui.
Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Vous aimiez, avant d'y aller, vous étiez déjà ornithologue dans l'âme, les oiseaux vous intéressaient, mais qu'est-ce que ces oiseaux marins ont de plus que les oiseaux terrestres ?
Disons qu'ils cultivent un paradoxe, parce que ce sont des oiseaux, donc comme on les connaît, la seule différence majeure, c'est qu'ils se nourrissent en mer. Et c'est un paradoxe assez important, parce que de là découle un tas d'adaptations très particulières, parce que pour se nourrir en mer, en fait, il faut savoir le faire. Et donc, ils ont une biologie hors norme, ils ont un paradoxe de taille, c'est qu'ils doivent pondre sur la terre ferme, mais leur quartier d'alimentation, c'est la pleine mer. Donc c'est vraiment une existence tout à fait troublante, je dirais, pour des oiseaux.
Et comme c'est une vie difficile, et bien ils ont des caractéristiques. Déjà, ils vivent plus longtemps en moyenne que les oiseaux terrestres. Ils sont plus fidèles aussi, parce que peut-être que dans l'adversité, il faut savoir pouvoir s'épauler sur sa compagne oiseau ou son compagnon oiseau.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, tout est beaucoup plus difficile lorsqu'on est un oiseau marin, parce qu'on va donc se nourrir en mer, on va très loin de son nid. On a souvent l'habitude des oiseaux dans nos jardins, les petites mésanges ou des oiseaux comme les huppes fasciés qui nichent dans des trous d'arbres, par exemple, qui vont manger des insectes autour de leur nid. Les oiseaux marins vont aller très très loin. Les albatros vont parfois à des milliers de kilomètres, donc De là découle bien sûr une biologie très particulière, une démographie très, très lente, un seul œuf souvent, souvent un seul poussin par an, parfois tous les deux ans. Donc des liens entre partenaires très forts, parce que pour réussir ce genre d'entreprise, bien sûr, il faut être soudé.
Ouais, alors ils ont des adaptations toutes particulières, par exemple l'absence d'eau douce. Quand on fait des longues traversées en mer pendant des mois, ça leur arrive de rester pendant des mois au-dessus des océans sans passer par la terre. Comment on fait pour avoir de l'eau de mer à disposition et quand même utiliser cette eau?
Eh bien, en effet, et ça c'est tout à fait intéressant, c'est que tous les oiseaux marins, quelle que soit l'espèce concernée, ont une glande assez particulière dans le cerveau, ouais, qu'on appelle la glande à sel, qui leur permet en fait de filtrer l'eau de mer et d'en retenir, en faire de l'eau douce. Donc ils vont expulser l'excès de sel par les narines. Et ce qui est intéressant, c'est que les reptiles marins comme les iguanes aux Galapagos ou les tortues marines ont exactement la même glande, mais ils l'ont développée de manière indépendante dans l'évolution. Donc c'est un phénomène qu'on appelle l'homoplasie ou convergence d'évolution, des organismes très loin, séparés dans l'évolution, aboutissent aux mêmes adaptations parce qu'ils font face aux mêmes contraintes. Lorsqu'on est en mer, il faut avoir accès à l'eau douce et la seule façon, c'est d'expulser le sel.
Ouais, la sélection naturelle a trouvé la même solution alors qu'on était dans un autre embranchement de l'arbre évolutif. Il y a aussi, évidemment, il faut lutter contre le froid, savoir rester sec aussi. C'est une des problématiques à laquelle est confronté un oiseau marin.
Tout à fait, rester étanche, c'est une des conditions sine qua non, parce que, en plus, lorsqu'on est en pleine mer, on a des pertes thermiques, même sous les tropiques, du reste, on a des pertes thermiques par convection, parce qu'il y a toujours du vent. Donc, et les oiseaux marins sont homéothermes, comme nous, il faut que leur température interne reste constante, donc il faut qu'ils aient des adaptations effectivement particulières. Et du reste, c'est la raison pour laquelle on trouve pas de très petits oiseaux marins, il n'y a pas d'oiseaux de la taille d'un colibri, par exemple, parce qu'il faut avoir une taille minimum, sinon on ne peut pas faire face à ces contraintes thermiques qui sont assez importantes.
Ouais, c'est vrai qu'en général, ce sont des oiseaux gros et denses, lourds, hein, avec une densité, leur corps est plus dense que celui des autres oiseaux.
Alors ça dépend, en fin de compte, si on parle des oiseaux plongeurs, effectivement, c'est une des caractéristiques, parce qu'il faut être plutôt lourd lorsqu'on veut plonger sous l'eau, donc on a un corps plutôt dense, comme les guillemots, par exemple, ou les macareux qu'on connaît bien en Bretagne, qui ont des ailes plutôt courtes et un corps très dense. Mais lorsqu'on est une frégate, par exemple, ou un albatros, là, il s'agit d'être plutôt léger, d'avoir une grande surface cellulaire pour pouvoir faire des milliers de kilomètres sans dépenser trop d'énergie. Donc, en fin de compte, suivant la technique qu'on a, si on est plongeur ou si on est voilier, on n'a pas les mêmes formes de corps.
Oui, montre-moi comment tu es constitué, je te dirai comment tu plonges, comment tu pêches et comment tu vis, en quelque sorte. Alors, chez les oiseaux qui plongent, comme le manchot empereur, hein, qui est un formidable plongeur. Alors lui, il ne le sait plus voler, mais par contre, c'est devenu un plongeur, un apnéiste formidable. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, les premiers naturalistes qui sont tombés sur cet oiseau en Antarctique ont eu du mal à le classer. Ils ne savaient pas trop s'il fallait le mettre chez les reptiles, chez les poissons, ils ne savaient pas trop à quoi ils avaient affaire.
Oui, alors ça, c'est valable pour tous les manchots. En fait, les premiers explorateurs qui étaient les grands navigateurs du 16e siècle, 17e siècle, quand ils ont effectivement vu ces oiseaux, ils ont en fait pensé au départ que c'était des reptiles, peut-être même des poissons, tout simplement parce que les plumes de ces oiseaux sont vraiment différentes des oiseaux qu'on connaît. Et en fait, pour être un oiseau, il suffit d'avoir des plumes. Hein. C'est la seule chose qui est importante pour faire partie de la classe des oiseaux. Mais eux, ils ont des plumes tellement petites qu'elles ressemblent à des écailles, en quelque sorte. Ouais. Donc c'est pour ça, et on comprend que les premiers explorateurs ont été troublés, mais les premiers scientifiques, hein, les premiers naturalistes également, ont été parfois déroutés par ces manchots qui ressemblent à rien d'autre.
Et alors, les oiseaux qui volent, hein, revenons quand même aux fondamentaux. On est quand même habitué à des oiseaux qui volent. Ceux qui volent sont capables de prouesses absolument incroyables. Hein. Déjà, il y a, vous citiez les albatros, qui sont capables de rester plusieurs heures sans battre des ailes en l'air, en planant, une économie d'énergie incroyable.
Oui, tout à fait. Et eux, ils sont adaptés au vol à voile dans les régions qui sont battues par les vents, comme les 40e rugissant, les 50e hurlant de l'océan austral. Mais on peut aussi faire référence aux frégates, qui sont également très performantes, parce qu'une frégate peut même dormir en vol. Elle va monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude en utilisant les ascendances thermiques et ensuite se laisser glisser tranquillement. Mais elle est tellement efficace dans l'air, même plus qu'un planeur, elle va descendre tellement doucement qu'elle a le temps de dormir pendant presque des heures en plein vol. Donc ce sont vraiment des oiseaux hors normes.
Parce que les frégates, ça peut rester pendant des mois en l'air, donc forcément ça dort à un moment ou à un autre.
Exactement,
en
et elle ne se pose même pas sur l'eau, puisque là, hormis en période de reproduction, lorsqu'elle se perche sur des arbustes, elle ne se pose pas sur l'eau. D'ailleurs, elles n'ont même pas les pattes palmées. Ouais. Donc, elles passent leur temps à voler. Une fois qu'elles ont quitté la Terre, c'est pour des voyages sans limite, sans interruption au-dessus de l'océan, mais sans jamais se poser sur l'eau.
Ouais. Vous racontez aussi l'histoire du guillemot, qui est un autre oiseau, lui aussi, qui vole, mais il a des ailes courtes et il est très lourd. Et du coup, cet oiseau, il pourrait ramener qu'un seul poisson par jour à sa progéniture. Comme ce serait trop coûteux en énergie, qu'est-ce qu'il fait ? il pousse son petit poussin à l'eau pour l'emmener directement avec lui partout où il va.
En l'occurrence, vous faites référence aux guillemots de Brunic ou aux guillemots de Troyes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils raccourcissent la période d'élevage parce que ça sera tellement long sinon de ramener les poissons un par un. Parce qu'on ne peut pas faire pire en termes d'efficacité de vol. C'est le pire compromis, un guillemot. Donc, il plonge bien, mais il vole très mal. Donc, l'idée, c'est que le poussin va sauter de la falaise où il est né. Ouais. Au bout de 3 semaines, il ne sait même pas voler. Il va sauter dans la mer et il va nager ensuite avec son père pendant plusieurs semaines et il va être nourri en plein océan. Et ça permet aux adultes de raccourcir la période d'élevage, sinon ça serait beaucoup trop long.
Alors ils sont très bien adaptés au milieu marin, mais ils ont encore besoin de la terre pour une chose. On n'a pas encore une seule espèce parmi les 305 espèces connues d'oiseaux marins, il n'y en a pas encore une seule qui sait se reproduire en mer. Pour se reproduire, faut la terre ferme.
Exactement, et ça c'est la grande contrainte des oiseaux marins, en tout cas pour les manchots, les albatros, qui sont les plus performants. Et je pense qu'à l'avenir, ils vont trouver une solution. Et j'aime à croire que les manchots, par exemple, vont peut-être développer une espèce de poche, un peu comme le marsupium des kangourous.
Ah oui.
Peut-être, c'est un scénario envisageable, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que c'est la grande contrainte. Mais on est tous au courant aussi du célèbre Alcyon de la mythologie grecque, qui a construit son nid sur l'eau et qui navigue au gré des vagues. Mmh. Mais ça n'existe pas encore.
Oui, ça n'existe pas encore. Mais en fait, l'évolution n'a pas encore abouti à tout ce qu'on peut imaginer. Larry, d'ailleurs, vous demande sur Internet, les bouées de haute mer peuvent-elles servir de nichoir ?
Alors, les bouées de haute mer, non, mais par contre, d'autres choses assez semblables, sur la côte pacifique du Pérou, par exemple, on a fait des îles à guano pour récupérer les fientes des oiseaux marins, et donc ce sont des îlots artificiels où les oiseaux, comme les fous ou les cormorants, viennent nicher. Mais des bouées, à ma connaissance, non, à mon avis, c'est pas assez stable quand même pour abriter un nid.
Alors, pour vous, hein, les oiseaux marins, on le voit, c'est une passion, c'est aussi une formidable excuse pour voyager et se rendre dans les recoins les plus inhabités, les plus vierges de la planète.
Tout à fait, c'est une excuse formidable parce que les océans, ça couvre à peu près deux tiers de la planète et il y a des oiseaux partout, donc c'est une excuse toute trouvée pour aller parcourir les derniers recoins de la planète, que ce soit les Galapagos, les îles Marquises ou les régions polaires. C'est quelque chose de tout à fait passionnant.
Oui, au nom évocateur. Alors ce sont des régions reculées, mais ça ne signifie pas que les oiseaux marins ne sont pas impactés par les activités humaines, et ça aussi c'est quelque chose qui vous inquiète. Ils sont menacés aujourd'hui, ces oiseaux?
Oui, à peu près 40% des espèces qui sont menacées, en tout cas qui sont en déclin, et les raisons sont multiples. Il y a la pollution, bien sûr, mais chimique, mais aussi, je dirais, mécanique. Il y a notamment un grand fléau actuellement, c'est les débris plastiques qui flottent à la surface de la mer. Il y en a partout. Des gros déchets, mais des tout petits également, que les oiseaux vont ingérer. Et donc, ils vont ingérer cela dans leur système digestif. Et parfois, ils vont mourir d'occlusion, notamment les poussins au nid. Les poussins d'albatros sont très sensibles à cela. Aux îles Hawaï, il y a des milliers d'albatros qui meurent chaque année parce qu'ils ont des brosses à dents, des bouchons de plastique dans l'estomac.
Alors, pour avoir envie de les protéger, il faut d'abord les connaître, apprendre à les aimer, les admirer. C'est ce qu'on peut faire, Fabrice Genevoix, avec votre ouvrage « Oiseaux de mer » aux éditions Glénat, avec de superbes photos pour découvrir ces oiseaux marins. Merci à vous. Y a-t-il des musiques universelles? On s'intéresse à la question dans la dernière partie de ce Club des Têtes au Carré.
Oh,
C'était Somebody That Used To Know, Gauthier et Kimbra sur France Inter dans La Tête au Carré, dont la programmation musicale est signée Thierry Dupin.
Ainsi font les petites marionnettes, ainsi font trois petits tours et puis s'en vont.
La Tête au Carré, le club sur France Inter.
Et ce n'est pas Thierry Dupin qui nous propose cette petite berceuse, mais vous, Maya Gratier, qui nous avez donné cet enregistrement réalisé lors d'une de vos études scientifiques sur la perception par les nouveau-nés de la voix, du son, des intonations. Vous êtes professeur de psychologie du développement au Baby Lab de l'Université de Paris-Nanterre et vous allez proposer une conférence gratuite dans le cadre des PopConf autour de la question « Y a-t-il des musiques universelles ?» Ça se tiendra à Paris, jeudi prochain à 19h30. Vous serez en compagnie du musicologue Clément Lebrun, qui est aussi musicien, producteur de l'émission Le Cri du Patchwork sur France Culture, et qui vient d'ailleurs de nous rejoindre par téléphone. Bonjour Clément Lebrun.
Bonjour.
Alors première question pour vous, Maya Gratier. Les bébés ont-ils un intérêt inné pour la musique ?
C'est ce qui semble se dégager là des 20-30 dernières années de recherche sur le bébé.
Ouais.
En effet, on a découvert des compétences assez remarquables de perception du son musical dès la naissance et même chez le fœtus.
Comment on le sait ça ? Comment on sait qu'un fœtus perçoit la musique et que ça ne le laisse pas indifférent ?
Alors on le sait d'une part en étudiant la réaction du nouveau-né à une musique entendue in utero. Donc on demande à des mamans enceintes d'écouter une musique pendant plusieurs semaines et on observe que le nouveau-né reconnaît bien une mélodie fréquemment entendue. Une autre manière de l'étudier est de mesurer le rythme cardiaque du fœtus,
ouais,
ou encore les mouvements corporels du fœtus à l'aide de l'échographie 4D.
Vous nous dites qu'il y a déjà une sorte de petite envie de danser à l'écoute de certaines musiques chez les fœtus, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
Alors, il y a peu d'études qui suggèrent vraiment ça, mais ça fait quelques années à peine qu'on peut vraiment mesurer précisément les mouvements fœtaux à l'écoute de musique. Par contre, on sait que chez le nouveau-né, il y a ce phénomène qu'on appelle l'entraînement rythmique. Donc un nouveau-né, en effet, s'active à l'écoute d'une musique rythmée.
Est-ce qu'il y a un type de musique que les bébés apprécient, auquel ils semblent être plus sensibles que d'autres ?
Alors ça, c'est une question dont on a beaucoup parlé, avec l'idée que la musique de Mozart,
oui,
serait pas appréciée des bébés et serait d'ailleurs bénéfique pour leur développement. Il semble pas que Mozart, en réalité, soit le compositeur préféré des bébés. Mais par contre, les bébés sont en effet très attirés par la musique, et en particulier par la musique qu'on chante pour eux,
ouais,
plus que par la musique enregistrée.
D'accord. D'où l'intérêt de chanter une berceuse à son bébé plutôt que de passer un CD.
Voilà, et comme vous avez pu l'entendre, le bébé répond.
Ouais.
Il répond pas n'importe quand. Ça, c'est une des choses qui nous intéresse beaucoup. C'est de montrer que les bébés non seulement perçoivent bien les structures musicales, donc rythmiques et mélodiques, mais aussi participent très très tôt aux chansons qu'on chante pour eux.
Clément Lebrun, musicologue, est-ce que l'on retrouve de la musique dans toutes les cultures du monde ?
Ah oui, ça c'est un des universaux qu'on pourrait vraiment déclarer vrai, c'est-à-dire que c'est la musique est la chose la plus partagée dans le monde, et puis même on pourrait dire l'un des universaux les plus sûrs, c'est qu'il y a de la voix partout dans le monde. Il n'y a pas de culture musicale sans voix. Et c'est peut-être là-dessus que la pop conférence va être basée, cette pop conférence où on a cette rencontre entre mon domaine, qui est plutôt la médiation de la musique que la musicologie en l'occurrence, c'est-à-dire,
oui,
ma pratique de la médiation auprès des jeunes publics et des publics diversifiés autour de différentes musiques, et le côté scientifique expert de Maya Gratier. Et pour moi, c'est justement de montrer que, à travers ces universaux comme la voix, comment on peut dégager finalement des liens entre les différentes cultures et aussi leurs particularismes pour montrer que finalement, peut-être qu'il n'y a pas de musique universelle, mais plutôt des phénomènes universels du son.
Ah oui. Alors par exemple, chez les Inuits, la musique s'apparente, vous le dites, davantage à un jeu sonore et les chants peuvent être très différents des nôtres. Exemple. Alors, Clément Lebrun, le médiateur musicien que vous êtes, qu'est-ce que ça lui inspire, ce chant qui, effectivement, alors, ça n'est pas désagréable à l'oreille, mais c'est surprenant. On n'est pas habitué à ce type de chant en Occident.
Alors, ce qui est intéressant, il y a plusieurs dimensions à travers cet exemple-là, qu'on utilisera évidemment à la conférence. C'est-à-dire que ce chant qu'on appelle le Katajak n'est pas appelé musique directement par les Inuits. Ils n'ont pas de mot pour dire le mot musique en Inuktitut, leur langue. Par contre, ils appellent ça des jeux. Et c'est vraiment le côté jeu, un échange entre deux femmes, l'une face à l'autre, et qui sont en train d'alterner une sorte de pattern musical, de pattern vocal qui va s'enchaîner l'un et l'autre en alternance, ce qu'on appelle le hoquet, alternant un son de gorge et un son plutôt vocalisé dans les aigus. Et finalement, ce qu'on peut retrouver d'assez uniforme dans la musique en général, c'est ce côté répétition.
Oui.
Et c'est vrai que c'est un des universaux qu'on rencontre souvent, c'est le phénomène de répétition dans la musique. Mais aujourd'hui, dans la culture occidentale en particulier, on a des musiques qui s'attachent à ne pas être répétitives. Je pense par exemple à la noise, aux musiques expérimentales, qui vont chercher justement le son là où il se crée et non pas là où il se répète. Et donc ce sont des catégories musicales qui vont toujours aller contre l'idée d'universaux. Donc finalement, on a un désir d'universalité, mais on aura toujours des cultures, des pratiques qui vont toujours contredire cette universalité, et c'est un peu ce qui rassure sur l'homme. On n'est pas tous pareils.
Ah oui. Alors un autre exemple de musique qui montre qu'on n'est pas tous pareils, une musique qui nous est pas forcément familière. Alors c'est de la musique balinaise, nous sommes donc en Indonésie, l'oreille du musicologue que vous êtes. Alors sur cette musique, on a une impression de dissonance. Est-ce que pour eux aussi c'est dissonant mais ils apprécient, ou est-ce que là aussi c'est une question de culture?
Alors là, on est complètement dans le cadre culturel. C'est-à-dire que la notion de dissonance et de consonance est vraiment liée à la culture, ça c'est sûr, et surtout des catégories qui sont très tôt identifiées. On en parlait avec Maya pour préparer cette conférence. Ça arrive très tôt, finalement, cette catégorie de consonance et dissonance. Et là, en l'occurrence, sur l'île de Bali, on a vraiment une manière d'accorder les instruments qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe. C'est-à-dire que l'intervalle entre les notes n'est pas du tout le même.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même gamme que nous, en fait. Le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec les espaces entre chaque note, ils n'ont pas le même.
Exactement. Et la particularité de cette musique-là, c'est justement ces petites dissonances pour notre oreille. C'est tout le goût et le timbre de cette musique et leur spécificité, leur excellence. D'ailleurs, les Balinais, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, pensent que leur musique est la meilleure, un peu comme nous, occidentaux, à une époque, en disant notre musique est vraiment le point d'ancrage pour analyser toutes les autres. Et plusieurs études ont été faites. Gilles Léoto, par exemple, ethnomusicologue célèbre, qui a fait écouter du Beethoven à des Balinais, qui ont trouvé ça absolument horrible et dissonant.
Ah oui, d'accord.
Donc, comme quoi, c'est vraiment culturel. Et puis, d'autant plus, pour nous, ça permet aussi de parler de cette acculturation progressive de la musique, puisque évidemment, que ce soit à Bali, en Inde, en Afrique du Sud, les instruments occidentaux comme le synthétiseur, la guitare, prennent le pas sur tous les autres instruments et surtout leur manière d'être accordés, et qu'on retrouve beaucoup de clash entre des instruments traditionnels accordés différemment et des instruments occidentaux accordés de manière tout à fait traditionnelle pour nous, et tout ça crée une acculturation et peut-être une musique universelle.
Maya Grattier, la notion très relative de ce qui est harmonieux et de ce qui ne l'est pas, quand est-ce que ça commence à se forger les goûts musicaux chez l'enfant? Est-ce que c'est un thème qui vous a intéressé aussi?
Oui, on a appris beaucoup de choses là-dessus récemment aussi. Et on sait assez étonnamment d'ailleurs que le nouveau-né, par exemple, préfère les sons consonants aux sons dissonants. Il y a plusieurs études qui montrent dans les premiers mois de la vie une préférence pour la dissonance, comme pour les accords majeurs aux accords mineurs. Et en même temps, il y a aujourd'hui des études qui montrent qu'il y a une spécialisation progressive au cours de la première année pour la musique de sa culture. Donc le bébé semble avoir des oreilles universelles au début de la vie et se spécialiser petit à petit. Et il y a quand même une controverse autour de cette question de consonance et dissonance chez le bébé.
Alors rapidement, Maya Grattier, si des jeunes parents ont envie de vous aider dans vos recherches, vous cherchez des familles pour venir vous voir avec leur bébé et travailler à ces questions?
Absolument. Nous sommes toujours extrêmement heureux d'accueillir des familles volontaires avec leur bébé. Et dans notre Baby Lab, donc il y a un lieu de recherche dédié aux bébés qui existe depuis peu de temps. Et nous travaillons sur des bébés de la naissance en maternité et puis au labo, au Baby Lab, de 2 mois à 2 ans à peu près.
D'accord. Alors on mettra le lien vers le Baby Lab sur la page de l'émission sur le site de franceinter.fr pour les jeunes parents qui seraient intéressés pour venir vous aider. Merci Maya Grattier et Clément Lebrun. La conférence que vous proposez sur le thème « Y a-t-il des musiques universelles ?» se tiendra à Paris jeudi prochain, quai de la Loire, à 19h30. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. s'inscrire. Nous allons mettre tous les renseignements, là encore, sur la page de La Tête au Carré, sur franceinter.fr. Cette conférence est organisée dans le cadre d'une série, Les Pop Conf. Merci à vous. Dans un instant, la campagne officielle des élections présidentielles. Et puis, après le flash de 15h, nous retrouverons, comme tous les jours, Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles.